Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Cette émission se propose de laisser dialoguer deux éminents spécialistes du XVIIe siècle, non seulement de la littérature, mais surtout de la rencontre entre les lettres et les sciences. J'ai le plaisir d'accueillir et de saluer mes deux invités qui sont l'un et l'autre autant des littéraires que des scientifiques, Jean Ménard de l'Académie des sciences morales et politiques et Dominique Descotes, professeur à l'Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et directeur du Centre international Blaise Pascal. Et vous l'avez deviné sans mal, Pascal sera le personnage principal de ce dialogue. Jean Ménard, bonjour, vous connaissez bien Dominique Descotes. Je vous laisse présenter notre invité.
Nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous êtes spécialiste de Pascal. J'ai fait votre connaissance d'ailleurs avant de vous avoir comme spécialiste de Pascal par votre famille que j'avais rencontrée parce que vous avez un passé très international. Votre père était professeur d'université, mais aussi il a été conseiller culturel dans plusieurs pays, notamment le Brésil et le Maroc. Et vous avez fait vos études dans ces pays-là. Nous sommes entrer en relation comme littéraire l'un et l'autre, et la réalité des sujets à étudier sur les domaines que vous exploriez fait que vous êtes aussi devenu scientifique. Et vous êtes devenu scientifique par le biais de l'histoire des sciences, ce qui n'est pas peu de choses, parce que la science d'aujourd'hui et la science du XVIIe siècle, c'est pas la même chose. Vous avez donc constamment associé, et dans vos travaux personnels, et dans le travail que vous avez dirigé au Centre international Blaise Pascal, vous avez constamment associé les sciences et les lettres. Et le premier point sur lequel je vais vous donner la parole, c'est le père Mersenne. Le père Mersenne, c'est le grand animateur de la vie scientifique au début du XVIIe siècle. C'était l'ami de Descartes, c'était l'ami de Pascal. Et beaucoup des travaux des uns et des autres n'ont pu être menés à leur terme que grâce à lui. Ce n'était pas un génie scientifique, mais il savait admirablement faire travailler les autres, ce qui est notre métier à nous, professeurs. Et nous avons donc, par son intermédiaire, le moyen d'accéder à beaucoup de choses. Alors, vous avez vous-même travaillé sur Mersenne, et vous avez été conduit à Mersenne par Pascal, qui a été votre sujet de thèse sur l'argumentation chez Pascal, qui était un sujet mi-littéraire, mi-scientifique lui-même. Alors, première question, qu'est-ce que Mersenne apporte à notre enquête? Et comment est-ce qu'il nous permet de poser ce problème du rapport entre ce qu'on appelle les sciences et ce qu'on appelle les lettres à une époque où elles sont intimement mêlées?
La question est difficile parce que, en fait, des œuvres du père Mersenne, il n'y a pas beaucoup d'éditions modernes. Il y a énormément de textes qui sont restés non publiés et difficilement accessibles, à commencer par le gros ouvrage sur les questions sur la Genèse, qui a précédé les deux ouvrages dont j'ai fait l'édition, c'est-à-dire L'impiété des déistes et La vérité des sciences. Alors, j'ai eu la chance d'avoir ce gros ouvrage dans une bibliothèque, à la bibliothèque diocésaine de Clermont, ce qui m'a permis de travailler dessus, mais sans faire d'édition. Les deux autres livres, visiblement, sont une suite du premier, dans la mesure où les questions sur la Genèse étaient en latin, c'est un gros ouvrage qui est très difficile à manipuler, mais je pense que les supérieurs du père Mersenne se sont aperçus qu'il avait une plume et qu'il fallait l'employer en direction du public des honnêtes gens. Et on lui a demandé de faire, semble-t-il, un ouvrage de polémique contre les libertins, l'impiété des déistes. Alors il s'attaque à des gens dont il dit qu'ils se prétendent théophiles mais qu'ils sont filotés, enfin c'est une allusion à Théophile de Viau. Et puis après L'impiété des déistes, qui est quand même un ouvrage de polémique et un peu à l'ancienne, le père Mersenne se retrouve avec La vérité des sciences à faire un ouvrage contre les sceptiques sous forme de dialogue, où le premier livre est un livre de controverse philosophique, mais les trois qui suivent, on le voit s'engager dans les mathématiques et donner un cours de mathématiques élémentaires qui est très commode pour comprendre le langage mathématique de l'époque qui, comme vous le disiez, n'est pas du tout le même qu'aujourd'hui. Alors, l'intérêt du père Mersenne, c'est que d'abord, ces deux ouvrages-là, eux, sont écrits en français, mais on s'aperçoit que, bon, le père Mersenne n'est pas encore le savant qui écrira des traités de physique, mais il a déjà beaucoup de connaissances, mais il reste très attaché aussi à certaines formes de l'art, en particulier, alors bien sûr, la musique et la théorie de la musique, la théorie mathématique de la musique l'intéressent beaucoup, mais il s'inspire de certains travaux de la Renaissance et qui essayaient de trouver des adaptations entre la musique et les poèmes qu'on pouvait mettre en musique. Alors, très curieusement, jusqu'à présent, les études sur le père Mersenne se sont essentiellement intéressées au côté scientifique de son œuvre, et cet aspect-là est assez peu considéré. Alors que si on regarde ses textes, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de textes dans lesquels il est question de poésie, beaucoup de textes dans lesquels il est question de musique. Et puis alors, bien sûr, il y aurait un autre élément qui serait à considérer du point de vue littéraire, c'est sa correspondance. Il y a une correspondance du père Mersenne qui, elle, a été publiée, qui est très riche en renseignements et qui, bien entendu, comporte une véritable rhétorique de la correspondance scientifique et qui est tout à fait passionnante.
Oui, alors j'ajouterai à ce que vous dites que l'époque où Mersenne intervient dans la vie intellectuelle, c'est une époque de grand désarroi. Désarroi parce que c'est le scepticisme qui l'emporte. Et nous sommes dans la suite de Montaigne, quoi qu'il y ait déjà eu des rebondissements quand même sur le plan religieux. Mais cette nécessité d'une réaction favorable au savoir est celle qu'a portée Mersenne. Dans cette entreprise, il a été puissamment soutenu par son ordre religieux. Les minimes. Et en somme, c'était une œuvre apologétique en même temps qu'une œuvre scientifique. Créer la science et défendre la religion, c'était la même chose, d'une certaine façon.
D'ailleurs, dans La vérité des sciences, le dialogue est souvent assez amusant parce que ça se passe entre un philosophe chrétien et puis un incrédule, un déiste, et le philosophe chrétien, qui est plus ou moins un représentant de Mersenne lui-même, est constamment en train de révéler aux déistes les merveilles des mathématiques, des choses incroyables. Il annonce la formule de Pascal, tout ce qui est incompréhensible ne laisse pas d'être, et on entend, enfin on lit du moins, les réactions du déiste qui est de plus en plus étonné, de plus en plus surpris, et puis qui finit par écouter un cours de mathématiques en s'exclamant de temps en temps d'émerveillement, et il finit effectivement convaincu, dans le livre de Mersenne au moins, convaincu de la vérité des sciences et de la nécessité de les comprendre et de la conciliation évidente entre religion et science.
Oui, ce que l'on peut dégager de ce que vous venez de dire, d'ailleurs c'est un problème extrêmement important dans l'histoire de la culture et à toutes les époques, c'est à quel point il y a interpénétration entre le scientifique et le religieux, le scientifique et le philosophique en tout cas d'une façon plus générale. Il faut dire que la venue au pouvoir de Richelieu, c'est un changement radical, parce qu'il y a une autorité, il y a quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui a l'intention de gouverner. Et ça suffit pour faire disparaître tout ce scepticisme diffus qui était catastrophique, même pour les sciences, non seulement pour la philosophie, mais pour les sciences. Et Mersenne avait l'intention de participer plus ou moins à ce courant. Mais à ce moment-là, il s'est trouvé dans le sens de la vitesse du vent, en quelque sorte. Et alors, ses premières œuvres, qui sont des œuvres de défrichement, d'une certaine façon, préparent, mais grâce à la présence de Richelieu par derrière, donc une force politique. Quand il y a une forte autorité politique, la vie intellectuelle est différente de ce qu'elle peut être quand il n'y a pas d'autorité politique. Et malheureusement, c'est comme ça.
Mais dans le cas du père Mersenne, un des points intéressants aussi, c'est que, comme il publie beaucoup et très vite, ses livres se suivent, se reprennent constamment, on voit sa pensée souvent évoluer, et ça aboutit à des ouvrages qui seraient très difficiles à publier, comme l'Harmonie universelle, où on voit Mersenne donner vraiment la mesure de ce qu'il est capable de faire en mathématiques, alors que dans La vérité des sciences, on en est quand même à de la mathématique élémentaire.
Il montre ce qu'il peut faire en science, et en même temps, il a le sentiment de la distance qui existe entre le scientifique pur et le philosophique. Parce qu'il n'y a de science positive qui se constitue qu'à partir du moment où elle est distinguée de la philosophie. Ça n'empêche pas que la philosophie garde toute sa valeur et sa nécessité. Mais la science se constitue d'une manière indépendante et d'une manière privée et d'une manière qui fait que, en même temps qu'elle assure ses conclusions, elle restreint son domaine. Elle refuse de se prononcer sur des sujets qu'elle ne peut pas traiter.
Il y a peu de philosophie chez Mersenne.
Donc Mersenne, c'est quelqu'un qui a un peu erré au début de sa carrière. C'était un des espoirs de son ordre, les minimes qui sont un ordre extrêmement rigoureux, un ordre franciscain, mais extrêmement rigoureux. Et malgré tout, il y a eu une vie intellectuelle. Ce qui est à souligner dans l'œuvre de Mersenne, c'est qu'il était en quelque sorte en mission scientifique. De par son ordre, il avait à jouer un rôle dans la vie intellectuelle de son temps. Il avait, non pas à concilier religion et science, mais au moins à situer l'une et l'autre de ces deux données, de manière à les concilier, de manière à constituer une vie intellectuelle, une culture complète.
Et à montrer que la religion ne devait pas être tournée en ridicule au nom de la science, bien au contraire, puisqu'elle contribuait.
Oui, donc quelqu'un comme Théophile de Viau, qui représente la croyance, à ce moment-là, se trouve dépassé, débordé. Et la date est extrêmement précise, c'est 1624.
Voilà.
C'est la date de la venue au pouvoir de Richelieu. À partir du moment où il y a un pouvoir fort, il y a des sottises qu'on ne peut plus dire.
Dans le cas du père Mersenne, moi j'avais été aussi frappé par le côté quelquefois très plaisant et parfois un peu amusant, parce que des sciences, quelquefois, il se livre à des extrapolations qui peuvent être comiques. J'avais retenu un passage où il proposait au curé des paroisses de faire des sermons, alors en disant « mais s'il est très important de connaître la théorie de l'harmonie, parce que ça vous permet de faire un dimanche un sermon sur un théorème d'Euclide, un sermon sur un théorème d'Archimède, un sermon sur un théorème d'Apollonius. » Alors il est évident que là, il plaide de façon un peu exagérée la cause de la science, mais ça correspondait à des connaissances qui, chez lui, étaient tout à fait réelles.
Oui, oui. Vous montrez une de ses faiblesses, en quelque sorte. La rigueur n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus solide en lui. Mais il est capable de rigueur quand même.
Ah oui, c'est...
Et il est capable de distinguer le scientifique et le non-scientifique.
Les exposés qu'il fait sur l'acoustique, les sections coniques, d'une part, sont très solides, et d'autre part, ont comporté des découvertes en acoustique qui en sont restées attachées à son nom.
Et alors, je crois qu'en tant que savant et homme et philosophe, il était en mission, en quelque sorte. Il représente son ordre. Ce que, si l'on considère tous les ouvrages publiés sous son nom, et dont il est incontestablement l'auteur, ce sont des ouvrages sur des sujets majeurs de l'époque, et qui faisaient problème à l'époque. Des ouvrages en particulier entre le scepticisme et les croyances, et toute croyance, rationnelle ou non. C'était le grand drame de l'époque, et il était en quelque sorte envoyé en mission. Et lorsque l'on imagine toutes les sommes qu'il a fallu pour imprimer les œuvres du père Mersenne, c'est incroyable. Il y a eu une sorte de mise de fond sur le personnage.
Il faut dire qu'il savait repérer souvent les problèmes ou les secteurs qui étaient vraiment porteurs de nouveautés. Enfin, il y a quand même des très belles choses sur les combinaisons et qui étaient là porteuses de grands problèmes
mathématiques. C'est ce que dit Pascal à son sujet, me semble-t-il, qui était merveilleux pour poser des questions.
Voilà.
Moins bon pour les résoudre.
Moins bon pour les résoudre.
Justement, revenons à Pascal. Je vous propose de marquer une courte pause et puis on va après aborder des relations entre Marin Mersenne et puis Pascal, puisque c'était le sujet que nous nous proposions de faire. Dominique Descôtes, les relations entre le père Mersenne et Pascal, ils se sont rencontrés physiquement ou ils correspondaient seulement ?
Je pense qu'ils se sont rencontrés physiquement. Ils ont certainement beaucoup conféré. Ce qu'il y a, c'est que les rapports entre eux, ils sont multiples, parce qu'ils touchent un très grand nombre de secteurs. La géométrie, et en particulier une forme de géométrie qui était nouvelle, qui a donné ce qu'on a appelé la géométrie de projection, qui était discutée dans le milieu de Mersenne, grâce à un des maîtres en géométrie de Pascal, qui était Girard de Zargues. C'est le père Mersenne qui a accompagné Pascal dans les recherches de physique sur le vide, sur la pression atmosphérique. Et il a quand même suggéré l'idée de ce qui allait devenir l'expérience du Puy de Dôme. Il l'a même proposé à certaines personnes et qui n'ont pas voulu exécuter la chose. Et c'est Pascal qui s'est chargé d'organiser ça. Et puis le père Mersenne est à l'origine du problème de la roulette, de la cycloïde, et qui a donné lieu à un des grands textes de Pascal de géométrie, que le grand public ne lit pas, mais qui est très beau quand même, du point de vue, je dirais, de l'esthétique mathématique, qui sont les lettres d'Amos d'Étonville, que Pascal a publiées à la fin de sa vie. C'est d'ailleurs à propos de ces lettres que Pascal, de ce travaux sur la cycloïde, que Pascal a fait l'éloge du père Mersenne dont vient de parler Jean Ménard. Il y a eu des querelles très très vives à propos de la découverte, de la résolution des problèmes sur la cycloïde, et c'est là que Pascal a parlé du père Mersenne.
Oui, oui. Il savait poser de belles questions, voilà. Mais il n'était pas assez fort pour les résoudre.
C'est déjà pas mal de les poser.
C'est déjà très bien.
Oui, c'est très bien. Mais comme disait Jean Ménard, c'était quelqu'un qui savait très bien mettre les autres au travail. Ah oui. Alors, il avait un système très au point pour poser des problèmes à des géomètres différents, qui chacun prétendait avoir trouvé quelque chose. Alors, je ne sais pas s'il a sauvé beaucoup d'âmes, mais en tout cas, il a provoqué de grandes controverses et qui, à chaque fois, produisait des publications scientifiques importantes. Enfin, de ce côté-là, on lui doit beaucoup.
Il y a un an, la presse s'est emparée d'une des découvertes de Dominique Descôtes dans le manuscrit des Pensées de Pascal, son œuvre la plus célèbre. Il a trouvé curieusement un texte de géométrie qui n'avait jamais été repéré jusque-là et qui avait été considéré comme négligeable parce que Pascal avait utilisé le verso d'une feuille déjà remplie pour un problème de mathématiques. On s'était intéressé au recto et vous avez déchiffré le verso.
Alors, c'est un épisode d'un travail qui est un travail d'assez longue durée, puisqu'on y est depuis un certain temps. On a décidé de travailler à une édition électronique des Pensées qui sera mise sur Internet avec les documents originaux, c'est-à-dire le manuscrit des Pensées et les différentes copies qui en ont été prises et un certain nombre d'autres documents, en particulier les imprimés, les éditions de Port-Royal, etc. Et on a été amené, mon ingénieur informaticien, et moi, à penser qu'on ne pouvait pas se contenter pour cela de documents photographiés en noir et blanc qui existaient déjà. Et on a déposé à la Bibliothèque nationale de France une demande pour voir le manuscrit, pouvoir l'analyser de près et surtout prendre des photos. On a été d'ailleurs puissamment aidé par les bibliothécaires de la Bibliothèque de Clermont à l'époque, dont l'un d'entre eux maintenant travaille, je crois, à la Mazarine. Donc on a pris ces photos, on nous a donné le droit de prendre des photos qui sont de très grande qualité et c'est là que j'ai été amené par intérêt, comme le disait Jean Ménard, pour les problèmes de mathématiques, sur une page, alors qui était, il faut bien le dire, sous les yeux de tout le monde, parce que le manuscrit des Pensées est quand même quelque chose qui est très connu, mais qui effectivement avait été négligé comme étant un brouillon et qui n'était pas intéressant pour des gens qui publiaient une édition des Pensées dont l'essentiel, il faut bien le dire, est d'ordre religieux et philosophique. Bon, il se trouvait que j'avais travaillé sur les traités sur la roulette et que je me suis intéressé au fond de ce document, alors qui est visible parce que une des techniques sur la composition du dossier du cahier qui comporte les papiers de Pascal, eh bien, consiste en ce que les fragments originaux sont collés sur une page qui sert de support. Mais que lorsqu'il y a quelque chose d'écrit recto verso, ce qui arrive quand même fréquemment, eh bien, les gens qui ont confectionné le dossier ouvrent une fenêtre dans le support, ce qui permet de voir le dos. Et c'est là que ce théorème de mathématiques était visible. Alors, ce théorème de mathématiques, il a beaucoup souffert. D'abord parce que visiblement, il n'a pas beaucoup intéressé les chercheurs. Mais il y avait un autre problème, c'est que, d'abord, le papier était très abîmé. Il y a eu un grand coup de ciseau qui a été donné de sorte que l'énoncé du théorème n'est pas tellement compréhensible parce qu'on n'a que la partie de gauche des lignes. Et puis, il a été visiblement porté dans une poche ou je ne sais quoi. Et l'encre est souvent très, très effacée, alors que sur le reste du manuscrit, elle est au contraire très visible et extrêmement fraîche. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, alors que les textes mathématiques de Pascal sont des textes qui sont entièrement rédigés, je dirais sous forme rhétorique, c'est-à-dire il n'y a pas d'équation. Ce que nous écririons en une ligne avec un signe égal, là, s'exprime dans des phrases avec un vocabulaire et une rhétorique qui est extrêmement au point, qui est très savante, enfin, et en même temps très compréhensible, une très grande clarté. Mais là, c'était la mise au point du théorème, et ça se fait sous forme, je dirais, abrégée et symbolique. Alors, c'est intéressant dans la mesure où, depuis très longtemps, chez les historiens des sciences, court le bruit que Pascal a été incapable de comprendre l'intérêt des symbolismes, et en particulier du symbolisme algébrique. Alors, ça permettait de voir qu'il avait son symbolisme, un symbolisme personnel, qui était parfaitement adapté pour traiter des problèmes de géométrie, alors qui sont des problèmes assez complexes, parce que ça annonce ce qu'on appelle, nous, le calcul intégral, ou le calcul infinitésimal, et qui, pour mesurer le volume, par exemple, d'un corps quelconque, imagine qu'il est découpé en tranches et définit des rapports entre des tranches composantes de ces corps. Et là, on a un exemple de théorème, alors, qui est complètement isolé, c'est-à-dire qu'on n'a pas ce qu'il y avait avant, on n'a pas ce qu'il y avait après, Mais on voit Pascal travailler très soigneusement sur l'élaboration de ces équations, disons, de ces égalités, en se corrigeant, en vérifiant soigneusement qu'il ne compte pas plusieurs fois certains éléments, ce qui était particulièrement important parce que certaines querelles qu'il y a eu avec des géomètres anglais portaient précisément là-dessus. On le voit vraiment travailler. Il y a une manière de travailler qu'on peut difficilement évoquer oralement, mais qui consiste à partir d'un côté de l'équation, à le développer de ligne en ligne, et puis à remonter vers le haut pour reconstituer le deuxième terme de l'équation. C'est un cas particulier, je dirais, de ce qu'on trouve sur tout le manuscrit des pensées, y compris sur des textes qui sont des textes célèbres comme celui sur la tyrannie, etc. Mais on le voit penser, on le voit travailler. Et jusque-là, on n'avait guère que le produit fini, c'est-à-dire des textes achevés. Là, on voit Pascal, mathématicien, travailler et on s'aperçoit qu'il y a des rapports très étroits entre la manière dont il compose ses premières esquisses dans les pensées et la manière dont il travaille, ou il écrit plus exactement, comme mathématicien. Et si vous voulez, c'est un cas, je crois, très intéressant où on voit que pour comprendre les textes mathématiques de Pascal, il est indispensable de connaître Pascal, auteur, je dirais littéraire. Ne serait-ce que parce que quand on a fréquenté le manuscrit des pensées, mais là ça c'est Jean Ménard qui m'a appris à le faire, on sait qu'il utilise souvent des barres de séparation entre les différentes formules qu'il écrit. Et si on prend le texte mathématique, ces barres de séparation, spontanément, on les prend nous comme des barres de fraction. Et à partir de ce moment-là, le texte devient complètement incompréhensible. En revanche, quand on connaît la méthode de rédaction de Pascal, eh bien, on arrive à reconstituer, à partir des formules, les images, les figures du problème qui est considéré. Donc, c'est un cas intéressant de coopération entre l'analyse littéraire, l'analyse, je dirais, paléographique presque, des textes, et l'analyse d'un texte qui relève maintenant de l'histoire des sciences. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un petit texte, mais qui découvre, me semble-t-il, des propositions qui n'ont pas été utilisées dans les textes publiés de Pascal. Et donc, ça donne une très petite idée, mais une idée quand même, de ce qu'il avait dans ses tiroirs et qu'il n'a pas utilisé. Parce qu'une de ses caractères, c'était qu'il ne sortait que des choses qui étaient vraiment mûres. Contrairement au père Mersenne, qui, à peine avait-il découvert quelque chose, s'empressait de le publier, là, Pascal attend toujours que ce soit mûr, complet et achevé au moins pour une phase de son travail. Et ça, il l'avait gardé dans ses tiroirs. Et heureusement, ça a été sauvé dans le manuscrit des pensées.
Merci, nous avons effectivement bien mieux compris comment Pascal pouvait travailler. Jean Ménard.
Oui. Il y a une méprise qui est souvent commise à propos de Pascal. On dit que c'est quelqu'un qui était brouillon, en quelque sorte. Les textes que nous avons ne sont pas digérés. Alors qu'il n'y a pas d'homme plus méthodique que lui, plus organisé. Et lorsque on a cette idée que tout ce qu'il écrit est calculé, eh bien, on comprend beaucoup mieux tout ce qu'il fait. Donc, il n'y a aucune raison. Le manuscrit des pensées, très longtemps considéré le manuscrit des pensées comme une sorte de casse-tête dépourvu de sens. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose de minutieusement construit. Et le manuscrit des pensées a longtemps été considéré comme un brouillon informe, alors qu'en réalité, c'est un brouillon calculé. Tout est calculé dans ce brouillon. Et il écrit notamment par fragments. Les fragments sont destinés à s'emboîter les uns dans les autres, voyez, c'est-à-dire à s'organiser, à se constituer en chapitres, et les chapitres en livres. Voyez. Et tout cela, il le fait en pleine conscience. Voyez. Il lui arrive d'évoluer légèrement, mais ce n'est pas tellement fréquent. Et quand il évolue, on sent qu'il y a eu un progrès. Ça ne détruit pas complètement ce qu'il avait écrit précédemment, ça le complète, ça va plus loin. Il y a des textes de Pascal qui sont impossibles à expliquer, parce que les esprits modernes, les esprits que nous rencontrons quotidiennement, s'attendent à des choses achevées, ne sont pas capables de comprendre qu'une pensée en formation. On a une pensée en formation, mais qui est parfaitement limpide, et si on va jusqu'au bout. Et alors je pense en particulier, alors c'était un point sur lequel je suis en conflit avec presque tous les chercheurs,
Dominique Descôtes, est-ce qu'il y a ce même travail de Pascal dans la logique de Port-Royal ?
Alors la logique de Port-Royal, c'est un autre sujet et qui est effectivement là aussi très largement placé sous l'égide de Pascal. En fait, j'ai commencé à travailler non pas sur la logique de Port-Royal, mais sur les nouveaux éléments de géométrie de Port-Royal qui ont été composés par Antoine Arnauld, qui faisait de la géométrie à ses moments perdus. mais surtout qui avait à un moment lancé une espèce de défi à Pascal qui ferait des éléments de géométrie les plus efficaces, et Pascal a jugé que l'essai d'éléments de géométrie d'Arnaud était meilleur que le sien. Ça m'a toujours un peu laissé sceptique, mais enfin c'était un autre sujet. Mais la logique de Port-Royal aussi est venue d'une sorte de décision qui a été prise dans le groupe de Port-Royal d'écrire une logique. Alors le problème, c'est que c'est une logique si on veut. C'est-à-dire que le projet de départ a été de composer une logique, et là la marque de Descartes est sensible, mais déjà aussi la marque de Pascal. Et puis progressivement, le projet s'est développé, et il s'est développé dans des sens qui n'étaient pas celui de la fabrication d'une simple logique, d'un simple manuel de logique, disons d'un que sais-je de logique, mais a pris des orientations beaucoup plus complexes. Les auteurs, alors Antoine Arnaud et Pierre Nicole, y ont introduit beaucoup d'éléments qui venaient directement de Pascal, alors en particulier des parties qui relèvent d'un opuscule qui s'appelle l'esprit géométrique et qui contient d'une part des règles d'axiomatique élémentaire sur les définitions, sur les axiomes, sur les démonstrations, qui sont encore cités aujourd'hui comme dans les manuels, c'est-à-dire qui sont vraiment des fondements qui sont restés extrêmement vivants, mais également alors des renseignements qui s'étaient tirés des travaux de physique de Pascal. Alors ils sont cartésiens, ils utilisent beaucoup Descartes, mais au début ils n'ont pas pu le faire de façon systématique parce qu'il leur manquait un certain nombre de textes. Et alors ils ont réussi à recueillir, alors par exemple, un texte qui s'appelle « Les Régulés, les règles pour la direction de l'esprit » de Descartes, qu'ils ont utilisé. Mais je dirais, et ça je crois que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, la marque de Pascal sur la logique de Port-Royal est beaucoup plus profonde et surtout beaucoup plus durable. Parce que d'abord, les auteurs ont eu en main, disons, l'opuscule sur l'esprit géométrique. Ils ont pu, bien entendu, discuter avec Pascal, puisque, comme on le disait tout à l'heure, la logique est sortie juste avant qu'il ne meure. Mais ensuite, ils ont eu en main le manuscrit des Pensées, après sa mort. Et ce qui a fait que, à l'origine, on a un manuscrit qui est à la Bibliothèque nationale, qui présente une forme, je dirais, un peu squelettique de la logique de Port-Royal. Et puis ensuite, il y a eu une première édition en 1662, qui fait une grande part déjà à Pascal, mais une deuxième édition en 1664, qui fait une beaucoup plus grande part à ses pensées, justement parce que les auteurs ont participé à la préparation de l'édition des Pensées de 1670. Et là, on voit, à ce moment-là, une marque de Pascal qui est très profonde. Alors, Pascal n'a pas participé à la rédaction de la logique de Port-Royal, mais c'est très important parce que, là aussi, il y a une tradition qui est un peu ancienne et qui remonte à Voltaire et qui considérait Pascal comme un esprit supérieur, mais qui s'était rendu l'élève des messieurs de Port-Royal et des docteurs de Port-Royal, en particulier d'Arnaud. La logique, en fait, montre, comme beaucoup d'autres ouvrages, que l'influence a été l'inverse. C'est-à-dire que c'est Arnaud qui a beaucoup reçu de Pascal, qui souvent a discuté avec lui, n'est pas d'accord, mais que l'empreinte de Pascal est très profonde. Et on retrouve dans la logique de Port-Royal des esquisses imparfaites de textes comme l'argument du pari. Il en est de même dans les nouveaux éléments de géométrie sur certains passages, où on voit que souvent les auteurs de la logique ont du mal à se débrouiller avec certaines idées particulièrement profondes et particulièrement complexes de Pascal. La logique n'est pas de Pascal, mais Pascal y est dedans, et je dirais d'une certaine façon plus que Descartes.
Jean Ménard, vous approuvez,
je sens que vous approuvez. Oui, j'approuve tout à fait cette
La conclusion
cette
vous appartient maintenant.
La conclusion, c'est que nous n'avons pas fini avec Pascal. Malgré tous les travaux qui lui ont été consacrés, je me souviens de ce qu'on savait de Pascal quand j'ai commencé à travailler dessus, et quand j'étais étudiant, il y a une cinquantaine d'années, et ce qu'on sait aujourd'hui. Je dirais que c'est le double de ce que l'on sait aujourd'hui, le double de ce qu'on savait à ce moment-là. Eh bien, nous n'avons pas fini malgré tout. Nous n'avons pas fini, et c'est un auteur qui se renouvelle sans cesse. Et il se renouvelle parce que le mot moderne ne conviendrait pas, parce que ça semblerait soit le cantonner à l'époque dite moderne aujourd'hui, c'est-à-dire précisément le XVIIe siècle, soit le réduire à quelque chose de daté. En fait, il y a une sorte de pensée qui se déroule perpétuellement et dont on ne voit jamais le terme, mais où il y a toujours à puiser, il y a toujours à apprendre. Et parmi les recherches que je mène actuellement, il y en a qui portent justement sur ces questions, notamment la lecture des Pensées, par exemple. On pourra la faire, je crois, d'ici peu de temps, d'une manière tout à fait neuve. D'abord parce que nous connaissons les pensées grâce aux travaux de La Fuma et d'autres qui nous ont permis de tirer parti des manuscrits de la manière la plus complète d'ici, une manière que l'on peut encore compléter d'ailleurs, et je crois que je le montrerai. Mais en même temps, on peut arriver, à partir de ces éléments nouveaux, on peut arriver à un approfondissement que l'on ne pouvait pas soupçonner auparavant. Et donc c'est une pensée qui se renouvelle en même temps qu'on apprend à la connaître.
Donc Pascal, inépuisable. Vous êtes d'accord, surtout, Dominique Descôtes?
Surtout, il n'a pas connu d'enfer. C'est-à-dire que c'est un auteur dont l'influence a été, mais forte, quasi uniformément, depuis le XVIIe siècle jusqu'à maintenant, alors qu'il y a d'autres auteurs dont l'influence a tiédi et qui quelquefois ressortent, mais qui sont un certain temps restés oubliés jusqu'à ce qu'on les redécouvre.
Merci, messieurs, de ce dialogue. Une précision à ajouter avant de vous quitter. Dominique Descôtes a obtenu le prix Pierre-Georges Castex décerné par l'Académie des sciences morales et politiques pour son œuvre de recherche littéraire et scientifique, un prix cher au cœur de Jean Ménard qui éprouvait une sincère amitié pour Castex. Ajoutons qu'une toute nouvelle édition d'un texte publié vers la fin de la vie de Pascal, La logique de Port-Royal, vient d'être éditée. C'est un document précieux pour juger de l'interpénétration des lettres et des sciences, preuve que le XVIIe siècle reste une période décisive dans l'évolution de notre civilisation. Merci beaucoup à vous deux.
Eh bien, merci à vous aussi.
Merci.